So we're back here, and we continue now with a roundtable to which I'm really happy to welcome Jean-Marie Etter, who is the director of La Fondation Hirondelle, Paolo Faustino, who is a researcher but also president of two different associations on media management and journalism, is coming from Portugal. Then we have Robert Picard, that you know already, and Antoine Laurent of Code for Africa. And Peter Rottenbühler is moderating the discussion. Thank you.
Okay. Thank you very much. Yes, you hear me. We shall discuss on these educational challenges, so focus on education. And first of all, I will ask the participants to introduce themselves and to say briefly what they are doing related to education. So we will speak either French or English, and then I will open the discussion to the audience. When you have some questions or some messages, please raise your hand, and we have two microphones. Where are the microphones? They are walking around. And so the discussion is opened. Thank you. We begin with Mr. Etter. Monsieur Etter, s'il vous plaît.
Merci. Bonjour. Je suis donc Jean-Marie Etter. Je dirige la Fondation Hirondelle. Je vais m'exprimer en français. Je suis journaliste. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à la Radio Suisse Romande comme journaliste. J'ai aussi occupé d'autres fonctions dans cette radio. Il y a une vingtaine d'années, il y a 20 ans exactement, avec deux autres journalistes, eux aussi issus du service public, j'ai créé la Fondation Hirondelle dans le souci à ce moment-là de répondre à ce que nous ressentions comme un besoin d'information dans le contexte de l'après-génocide au Rwanda. Notre interpellation, c'était de nous dire simplement, bon, nous y avions été pour comme journaliste suisse, pour couvrir. Et on s'est dit, on ne peut pas simplement aller là-bas, couvrir, revenir, nous dire, voilà, on a fait notre travail. On s'est dit, est-ce qu'en tant que journaliste, nous pouvons être utiles ? C'était ça notre démarche de base. Et peu à peu, nous nous sommes rendus compte que faire de l'information rigoureuse, la plus rigoureuse possible, la plus honnête possible, la plus complète possible, répondait véritablement à un besoin essentiel et majeur dans des zones de crise, ce que j'appelle des zones de crise, c'est-à-dire des zones où les populations sont soumises à des violences très grandes et sont impuissantes face à ces violences individuellement ou collectivement. Dans le domaine de la formation, la Fondation Hirondelle n'est pas dans son cœur de cible. Le cœur de cible de la Fondation Hirondelle, c'est de diffuser de l'information et des débats. Mais ce cœur de cible nous a amené à faire de la formation d'abord dans nos propres médias, dans nos propres radios, dans la mesure où ce sont des radios, et puis ensuite, peu à peu, à développer des activités de formation liées toujours à des activités de diffusion, d'une manière ou d'une autre. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des grands besoins de formation et que souvent, de faire de la formation in situ, c'est-à-dire de la formation véritablement liée à une production et à une diffusion réelle, peut être extrêmement utile et formateur. Donc actuellement, nous avons aussi des centres de formation, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire.
Et au Rwanda ?
Non, au Rwanda, en Rwanda même, nous ne sommes plus présents. Ah. Nous sommes présents en République démocratique du Congo et en RDC, effectivement, nous avons aussi une activité de formation.
Et comme on célèbre les 20 ans de Hirondelle, j'aimerais en savoir encore un peu plus. Comment vous organisez cette formation ? C'est une formation de journaliste classique, comme chez nous, avec des leçons sur la déontologie aussi du journalisme, ou est-ce que c'est aussi une formation de management, d'organisation de médias. Et est-ce que vous avez aidé à fonder des radios ou des journaux ?
Alors, aider à fonder des radios et des journaux, oui, absolument. Nous sommes...
Financièrement ?
Aussi financièrement. Alors, je vais peut-être revenir un peu sur l'aspect financier, qui est effectivement un aspect tout à fait fondamental. Je nous définis parfois comme des créateurs d'institutions. Créateurs d'institutions médiatiques indépendantes dans des zones de crise. C'est effectivement notre cœur de métier. Maintenant, quand je dis que nous sommes créateurs d'institutions, automatiquement vient la question combien de temps est-ce que cette institution va durer ? Si nous sommes créateurs d'institutions, elle devrait être appelée à durer extrêmement longtemps. Et là, nous retrouvons le modèle économique que le professeur Picard évoquait ce matin, tout à l'heure, avec évidemment la caractéristique qu'en zone de crise, donc de crise violente, de guerre par exemple en République centrafricaine, vous êtes dans un tissu économique. Vous disiez ce matin qu'il faut un tissu économique qui permette le développement d'un média du point de vue économique. C'est la base de sa pérennisation, de sa sustainability. Évidemment, dans des zones de guerre aiguë, vous n'avez pas ce tissu économique. Et donc, se pose la question, dans ces zones-là, et en Afrique, il y en a quelques-unes, mais pas seulement en Afrique, de la pérennité ou de la durabilité d'un média, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais, entre autres, des médias indépendants que nous essayons de lancer. Donc ça, c'est un problème absolument central. Parce que la base économique manque, la base économique globale. Effectivement, il faut réfléchir globalement et pas uniquement média. Donc, quand cette base économique globale manque, que faites-vous ? C'est l'une des questions qui nous sont posées très, très durement, concrètement, comment est-ce qu'on fait ?
Et on reviendra à l'éducation après.
Alors, tout à fait, à votre disposition.
Ouais, OK. Paolo Fassino, vous avez dit que vous parlez français un peu ?
Je comprends un peu français.
Ah, vous comprenez.
I prefer
in English. So please introduce yourself and what is your activity concerning education.
Okay, thank you very much. So I teach, my focus in education is media management, media economics. I teach in Portugal, in Porto University, and in Lisbon too, in the master. And including in Africa, in the past I participated in different trainings in media management in African Portuguese speaking countries. Now I'm participating in the next February. I will participate in a master in Cabo Verde. I will teach a topic about media management, and I teach in the other place in Russian and Brazil media management.
There is a university in Cape Verde.
Yes, there are. Yes. There are in the master programs too.
Master programs in media?
Yes, in media, in journalism. So it's a cooperation between one university in Lisbon and Cape Verde. Ah. Yeah. Okay. So about the main question in this session is what challenge we have to training in media in Africa. I think we can't generalize the model to training there. So, in Portuguese, African Portuguese speaking countries, there are different levels of training necessities, and I think we can divide two big models. One model may be more close to sustainability, media sustainability. Another model more close to media emergency. So. I mean, media emergency when we find people with strong lack of competence, basic competence like literacy, like linguistic. For example, in Guinea-Bissau, I participated in the project financed by the World Bank. It was an intensive project. We were there a team with six persons. We made a due diligence in different media companies in Guinea-Bissau, and we found many, many basic problems there. So, and the question was how we can train these people, because the level is so low, what we can do to improve the competence here. So the first step that we did was learn the people to write. So
that's also the first step here when we teach young journalists.
Yeah, but
the most important.
We are talking. Yes, but we are talking about in a real basic level. So other issue that we understood there was the perception about the media activity. Major part of the people didn't understand that the TVT is an independent task, independent company. They perceive a TVT with a part of the government approach, and they don't understand the importance of the market, for example. And there are no market too, but they didn't any kind of efforts to commercialize the product in the market. The infrastructure were very, very, very poor. So, in fact, there are some countries where it is difficult to bring a model. We can't talk about sustainability in this kind of context. So, we need to understand this context and create programs, specific programs, with the basic issues. And we can't be ambitious about, we can talk about pluralism, because in this phase they don't worry about pluralism. Mm-hmm. They need to improve the basic things to do something. The pluralism will be next step, the sustainability. Of course, there are other good examples, and in fact, we can put the training in another level, in this case, to more close to the sustainability approach, namely improve the quality of the product, incentive to orient more to the market, promote the interaction with the civil society, create media system regulation, including the participation from the media associations, and promote the self-regulation. So, as I told, I think we need to divide what is media sustainability from media emergency to do training in Africa. So my example in Africa, only you have an idea how worse was the situation. We found, for example, in the TV public broadcaster, a company abandoned by the state, overstaffing given the few production presented, lack of business management. Broadcast of TGV was only visible in Bissau, and technical quality was very bad, and today is the same. Inability to find advertising market that cannot contribute to its subsistence. So if we consider it is difficult to define what is media sustainability, but we can try to do it. For example, I consider some indicators that we can relate with media sustainability, as, for example, media outlets and supporting firms operate as efficient, professional, and non-profit generating business. Media received revenues from multitude sources. Advertising agents and related industry support as an advertising market. Advertising revenues as a percentage of total revenue in the line with accept standard at commercial outlets. Independent media do not receive government subsidies. Market research is used to formulate strategic plans, enhance advertising revenue, and tailor product to the needs and interest of audience. For example, broadcast ratings and circulation figure are reliably and independently produced. So we can find this kind of characteristic in major part of African countries. I think is difficult, including in our countries, maybe difficult to find all those characteristics. For me, the media sustainability are related with those.
Okay, thank
those
you.
Topics. Thank you.
Professor Picard, you don't need to introduce yourself, but may I ask you, is the level everywhere in Africa as low as Mr. Faustino told? Or are there different levels? I think, for instance, in South Africa, I think there is a high educational level also in media, and perhaps in Kenya also. Or
Yeah, I mean, these vary, and it varies on the history of the country, on the history of education, on the history of the media institutions that are there. And where you've had established media institutions for a long time, particularly where you've had private media institutions in place, they tend to already be at a higher level of education, and they understand the issues in a different way. So these are very specific to countries, and you have to look at that very, very carefully. What I see in different levels is that people want to kind of try to create the same kind of training and education everywhere. And that's not necessarily the most important thing. In some cases, you need in-company training that is just done for the staff of the company, helps develop their own strategies, their own understanding of how to deal with it. In other cases, you have industry associations that can offer certain training programs through them that help everybody as well. In some cases, you don't have effective associations, so you can't do that, and you have to link to an institution to do so. And then there are some places where it's appropriate to include it in higher education. And again, it depends on the nature of the institutions, the relationships between the higher education institutions and the media companies. All of those come into play. So there are wide differences.
Okay, Mr. Antoine Laurent, vous voulez parler français?
Oui, on va. Je vais parler français.
Présentez-vous et dites-nous ce que c'est que ce Code for Africa que vous représentez.
Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Laurent, je suis le directeur du Fonds pour l'innovation numérique de la presse basé à Paris et financé par Google. Et par ailleurs, je travaille avec Code for Africa. Donc, Code for Africa, c'est une ONG africaine qui a été créé par des Sud-Africains et des Kenyans. Donc c'est une organisation qui est basée en Afrique du Sud et au Kenya. Comme son nom l'indique, même si c'est peut-être pas très clair à première vue, c'est une organisation qui travaille avec des codeurs, donc des développeurs informatiques, des ingénieurs en informatique, sur le soutien au développement des stratégies numériques dans les médias africains. Donc, c'est une organisation qui travaille essentiellement en Afrique anglophone. Et notre manière de travailler, c'est d'établir des petites agences, des formes d'agences de développeurs dans des pays qu'on appelle des chapitres. Donc, nous avons des chapitres dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Ghana. Il y a des chapitres qui sont en cours de création au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun. Et donc, ces petites agences sont des groupes de développeurs locaux donc, qui ont été formés localement ou dans des formations internationales, qui savent développer des applications mobiles, des sites internet, qui savent travailler sur la visualisation des données. C'est assez important de souligner ça parce que ce sont des compétences qu'on ne trouve pas partout, même dans des pays développés. Parfois, il y a un manque de ce type de compétences-là dans les médias. Et donc, je trouve qu'il est important de souligner que dans des pays africains, il y a des personnes qui sont suffisamment formées pour développer ce type de format numérique pour diffuser l'information sur Internet, mais pas seulement sur Internet, sur les téléphones mobiles, par SMS. Donc, on peut mettre en place différents types de formats pour diffuser l'information numériquement. Donc ces petites agences soutenues par Code for Africa travaillent avec les médias pour former les journalistes de médias traditionnels établis sur l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des données pour expliquer l'actualité. Mais aussi Code for Africa travaille beaucoup sur le développement d'un écosystème numérique. Alors on parle parfois de choses qui sont très développé, qu'on peut vraiment développer en profondeur en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria. Parfois, c'est vraiment, on travaille sur le développement d'un embryon d'écosystème numérique. Même si au Sénégal, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, mais au Burkina Faso, au Cameroun, on est au début, même s'il y a un écosystème qui est assez riche avec des startups, des développeurs, des designers, des graphistes. Donc nous, on travaille vraiment non pas sur la formation des journalistes ou des médias ou des managers de médias au numérique, mais plutôt sur la création ou le soutien à un écosystème. Et donc, quand je dis écosystème, ce que je veux dire, c'est on travaille sur l'amélioration de la mise à disposition des données publiques, donc ce qu'on appelle l'open data. Nos agences de développeurs vont travailler sur le développement de portails d'open data qui vont mettre les données à disposition des journalistes et des citoyens pour développer des applications d'information avec des données. On aide le développement d'associations de citoyens qui sont intéressés par les outils numériques et l'information. Donc là, ce n'est pas vraiment uniquement à destination des journalistes, c'est à destination de tout le monde, de la société civile en général, mais on se rend compte au final qu'il y a beaucoup de journalistes qui viennent dans nos réunions, dans nos associations, dans nos formations. Ce sont les journalistes les plus intéressés par ces thématiques-là. Ces petites associations que nous créons dans les pays africains, qu'on crée sur le modèle, un modèle international qui s'appelle Hacks Hackers. Ce sont des associations qui ont des réunions, des sessions de formation et d'échanges autour de l'information et du numérique, donc développement d'outils de diffusion de la, numérique de diffusion de l'information. Donc c'est ce que fait Code for Africa, ça c'est une description assez générale. Et ensuite, pour être très pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements d'innovation numérique ouverts aux journalistes, mais pas seulement aux journalistes. Donc là, je vais peut-être dire des mots que tout le monde ne connaît pas, mais on organise ce qu'on appelle des hackathons. Donc ce sont des sessions d'innovation pendant lesquelles, pendant 48 heures, on va avoir des journalistes qui vont travailler avec des développeurs, avec des designers pour créer des applications mobiles en un temps très réduit. Ce sont des petites compétitions pendant lesquelles on voit vraiment la libération de beaucoup de créativité, de beaucoup de compétences, la création d'applications et de formats nouveaux. Donc on travaille beaucoup là-dessus de nombreux pays africains. Et enfin, on travaille sur le soutien financier à l'innovation dans les médias. Donc on a un concours, un appel à projet assez important qui demande aux gens qui ont des projets innovants dans le domaine des médias de candidater. Et ensuite, on apporte un soutien financier.
Donc, vous faites beaucoup de choses et tout ça est financé par Google. Donc, qu'il y a un budget de développement de Google qui est engagé là ? Étendre le pouvoir de Google en Afrique ou...
Non, c'est bien distinct. Moi, je travaille à Paris pour un fonds de soutien à l'innovation pour la presse française à Paris. Et Code for Africa est soutenu par des bailleurs de fonds internationaux, Google en partie, mais en petite proportion, et sinon des bailleurs de fonds internationaux classiques qui interviennent dans le développement des médias en Afrique, la Fondation Bill & Melinda Gates, Omidyar Network, la Banque mondiale. Donc ça n'est pas du tout lié directement à Google.
Parce que naturellement, dans toutes ces initiatives, il y a toujours le soupçon qu'on a des intérêts économiques, naturellement. Parce que, vous voyez, on est ici des représentants des anciens pouvoirs coloniaux. Il y a un Anglais, un Français, un Portugais. Les Africains sont dans la salle. Alors, je me demande aussi... sur le principe, est-ce que les Africains demandent qu'on vienne les aider faire l'éducation
Si je peux réagir très rapidement, moi, quand je travaille pour Code for Africa, donc comme je l'ai dit, je travaille vraiment en petite proportion de mon temps, mais Code for Africa, c'est une organisation africaine créée par essentiellement un Sud-Africain qui s'appelle Justin Arenstein, mais il y a également une équipe, donc en Afrique du Sud, c'est des Sud-Africains, et au Kenya, ce sont des Kenyans. Et moi, quand je travaille pour eux, ce sont mes chefs.
C'est eux qui vous ont appelé.
Ensuite, c'est eux, justement. C'est une initiative assez particulière, puisque c'est eux qui vont chercher les bailleurs de fonds, qui font un très gros travail de développement de leur propre activité. Mmh. Et une chose très, très importante pour Code for Africa, c'est que toutes les activités que Code for Africa développe ont pour accent ou pour, on va dire, intérêt principal de répondre à des demandes des citoyens. Donc, des citoyens des pays dans lesquels Code for Africa est actif. Donc, on développe des applications qui répondent à des manques d'informations très précis, qui répondent à des demandes de la société civile.
Yes. That's a very important question, I think. We are always speaking about investment, about education and so on. Let's go to the basics of a media world. What do African citizens, how do African citizens consume media? And what do they await from media? Perhaps the demand is different from our countries. It's perhaps totally different, and it needs other models, also other business models. Could you define, out of your experience, how media are consumed in Africa, in the African countries you know, and how is it different from our countries? Monsieur Etter, vous avez envie de parler?
Oui, d'abord pour vous dire que je ne peux pas répondre à votre question, mais que je vais essayer quand même. Évidemment, c'est très large. L'Afrique, ce sont toute une série de réalités qui sont extraordinairement différentes. Donc je vais prendre les pays où travaille la Fondation Hirondelle, c'est-à-dire des pays qui sont d'une manière ou d'une autre soumises à des crises ou des situations extrêmement difficiles. À part la Côte d'Ivoire, par exemple, où nous sommes dans une zone de stabilisation, voire de stabilité, mais majoritairement nous sommes dans des zones instables, je dirais. Alors dans ces zones-là, il faut prendre en considération, je dirais, deux éléments majeurs. Le premier, c'est quels sont les vecteurs à disposition. Et le deuxième, c'est quels sont véritablement les besoins de la population. Et je diviserai besoins et envie. Ce sont deux choses différentes. Alors, les pays où nous travaillons, les vecteurs restent majoritairement, si je prends l'ensemble d'une population, la radio. Tout simplement parce que c'est le vecteur le plus simple. Et s'ajoute à cela de plus en plus de nouveaux vecteurs. Nous parlions tout à l'heure du développement de la télévision à toute vitesse, un développement exponentiel qui touche essentiellement les zones urbaines et les grandes villes. Mais ça se développe, ça devient de plus en plus important. Et ensuite, il y a évidemment tout ce qui est lié au net et à l'existence ou non du haut débit ou de la 4G. Là aussi, ça se développe à toute vitesse, avec une donnée supplémentaire, c'est que le téléphone mobile, le téléphone portable, se généralise de plus en plus. Voilà les vecteurs. Et évidemment, ce que vous allez pouvoir diffuser, donc la manière de consommer, pour répondre à votre question, va dépendre d'abord de ces vecteurs. Essentiellement, dans les pays où nous sommes, encore aujourd'hui, la radio. Alors, quels sont les besoins? Les besoins, de nouveau, dans des zones soumises à des situations de forte instabilité, le premier besoin, je crois que je peux l'affirmer d'après les sondages que nous faisons depuis 20 ans, où nous demandons aux gens pourquoi ils nous écoutent, où nous regardons leurs besoins, sachant aussi que les radios que nous faisons sont en général numéro un, ou les médias que nous faisons sont en général ou très souvent numéro un dans les pays où nous travaillons. Donc c'est une validation de notre offre. Le premier besoin, je ne dis pas l'envie, le besoin, c'est de l'information rigoureuse, impartiale et crédible. C'est le besoin, il est là.
Information politique?
Information généraliste. Évidemment politique, mais aussi économique, sociale.
Surtout locale.
Nationale, locale, nationale. Et de service. Information de service est essentielle. Donc, ce sont vraiment les fondamentaux de l'information. Mais c'est là que les gens expriment, encore une fois, un besoin et pas une envie. Ensuite, et c'est évidemment, du coup, ça devient tout à fait central. Et je crois que là, en disant cela, nous exprimons quelque chose qui va être fondamental, pas seulement pour les pays où nous travaillons, mais globalement, c'est un thème de réflexion majeur, et non seulement en Afrique, mais aussi en Suisse ou en Europe. il y a là quelque chose d'absolument central. Ensuite, il y a les envies. Les envies, c'est le divertissement, c'est quelque chose de drôle, on a envie de s'amuser le samedi soir, même si on est en zone de crise. Donc en zone de crise, vous avez beau être en zone de crise, le samedi soir, vous allez avoir envie d'écouter de la musique un peu dansante, et puis voilà, tout ce qui fait l'actualité,
etc. Donc ça correspond un peu aux envies de chez nous. Hein. Est-ce que vous avez constaté d'autres envies en Afrique qui sont complètement différentes de notre paysage télévisuel. Par exemple, prenons l'Italie, il y a des journaux pour l'élite et puis le peuple regarde la télévision, surtout pour le divertissement. Je peux m'imaginer qu'on n'est pas très différent.
Alors, ce ne seront pas nécessairement exactement les mêmes divertissements. Forcément, nous allons avoir des déclinaisons culturelles locales. Ouais. Mais le principe que ce soit du divertissement, oui, au niveau de l'envie, bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui va marcher. Et exactement comme chez nous, ce qui va marcher, c'est aussi le truc qui va être émotionnel, c'est l'endroit, que ce soit du docudrama, que ce soit même de l'info, mais de l'info un peu people, ouais. au sens où pouvait l'être le Blic ou le Matin ou ouais. que sais-je. Ben oui, et forcément, ça va aussi marcher parce que ça va jouer sur les mêmes ressorts. Les ressorts sont les mêmes.
Ouais. Est-ce que vous avez... Vous aimeriez intervenir sur ce sujet, the needs.
Yeah, well, I think the needs are absolutely the same everywhere, but the degree of certain needs are greater in some places than others, and it depends on what is available already. The problem of discussing Africa is you're discussing a continent with so many different social realities that it's difficult to say, and where you have heavy urbanization, the needs are different than where you have very rural communities or small villages or people living in familial gatherings. And so the how information flows and how entertainment takes place in those communities differ. So you may have, even within one country, an urban need that's different from a rural need. And so, but the fundamental needs are the same. The people need to know what's their place in society, what's happening around them, what they need to do to protect themselves and improve themselves. Those are fundamental needs everywhere. But if you're in an urban area, you often have many more sources of information and support for that than if you do in a rural area. And in a rural area, then maybe media become more important for that because you have these other institutions in an urban area.
And is there a bigger need in education for managers, media managers, or for journalists?
So I will reply your question only to add comments before question. I think you said the relevant issues about the difference about consumers in Africa and Europe, the difference. I think the main difference is the press. Of course, in Europe and the United States, the press is declining, but the main difference in terms of consumption that I can find in Africa, in some countries in Africa and Europe, is in the press. Because in Africa, there are strong problems with the distribution. Of course, there are literacy and education problems, so the press is not popular in Africa. So the most popular medium, as we know, is radio. For obvious reasons, because radio has a good cover in different territories and doesn't require a special education. So, but I'm a little bit optimist because I think the gap today between the young people in Europe, for example, or in Africa, is reducing, because I think there are more in the future. I think the evolution will be fast in terms of consumption because the internet, because new technologies, and I think if we compare today with the past, today we are in the best situation to have more optimistic perspective about the media consumption in Africa. So, about your second question, in Africa, The media management is not the issue in general. So they don't, is not a priority training area. I participated in some programs because I proposed it with some partners, but not in major part of the universities there or from the institution. There are no intention to organize programs in media management. They normally perceive the journalism, the media companies, as a journalism practice. So the media management, in general, let's relate this with ideology. In general, I don't know exactly how is the Anglo-Saxonic or Francophone media African media countries, but in Portuguese African countries, I think the journalism is more close of industry, cultural industries, more based or related with the Frankfurt School, and is not perceived as a business. And for this reason, including in Portugal, there are no many media courses with media management in Portugal. In Brazil, the same. There are no many universities with media management because media management is not a focus for the university because they perceive a media as a cultural product. So, they don't consider that media need to goes to the market. So, there are ideological problem to solve and to demonstrate that media in fact need go to the market to be independent. So, the approach in Africa, Portuguese-speaking countries, is basic journalism, practice, newsrooms, and no more media management. But sometimes it is possible to press to do some training related with media management, but it's not a priority.
That's very interesting, because in our country, for instance, all the media companies were managed till 5 years ago by journalists. And now there is a huge need of managers, and there are a lot of managers managing our media companies, and not only to their profit and to their good. To their profit, yes, but not to the better quality, for a better quality. That's very interesting. But what is the need of the journalists? Journalists in Africa, do they ask you to have better training, better education? Do they have a voice in certain countries? Are there journalist associations asking better education and better training in universities? Are they working on codes of deontology, as we have in every country? Are there codes of deontology in Africa, in African countries, like in America, Canada? I studied the different codes of deontology. There are codes everywhere, even even in Russia and China, but nobody respects them. But
yeah, there are codes across Africa, and there are dozens of codes you can find. The question is, how well are they adhered to?
Yes, yes.
Which is a separate issue altogether. But you are seeing the emergence of journalists' organizations very loosely in some places, and more formally clubs in others, and so they're developing. An awareness of a separate identity in many places, but it's still at a very low level, and one cannot expect that it would be at the same level as it would be elsewhere. I do disagree a little bit with Paolo about the management education. Certainly he's right that in many countries, media have been particularly seen as social and cultural. But that was very much the way in Europe 35 years ago, or 25, and over time we've developed an understanding of the need that there were now emerging business issues that needed to be addressed, and so you now have a fairly good media education across management education across Europe. That comes little by little into the African situation as countries normalize and as the industries start to stabilize, then they start asking, well, how do we be more efficient and how do we deal with those things? And so it's coming, but it's not in many countries the priority today.
Oui, j'aimerais aussi répondre à ces interrogations. Vous en avez plusieurs. La première, c'est ce que les journalistes en Afrique, est-ce qu'il y a des journalistes en Afrique, d'une part, qui ont des interrogations par rapport à leur formation, par rapport à leurs compétences, etc. La réponse est évidemment oui. Nous sommes sans arrêt sollicités très, très régulièrement par des journalistes africains qui nous disent « Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ?» Vous pouvez nous donner un coup de main pour faire de la bonne information. Et c'est très souvent lié à des demandes de formation. Donc la demande est là, c'est absolument évident. Et je dirais que, globalement, je dirais le problème, ce n'est pas la formation. Le problème, ce sont les médias. Ça, c'est vraiment mon point de départ. La formation, oui, il y a des problèmes de formation. Oui, la formation est toujours utile. Oui, la formation est quelque chose qui, politiquement, n'est pas dangereux. Donc, vous trouverez de toute façon toujours des donateurs qui vont vous donner de l'argent pour faire de la formation. Après, on vérifiera pas toujours si ça servit à quelque chose ou pas. Mais oui, la formation est évidemment quelque chose d'indispensable. Cela dit, l'essentiel n'est pas la formation. L'essentiel, c'est l'endroit où vous pouvez exercer votre métier. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez exercer votre métier ? Et moi, je renverserai la question. C'est est-ce qu'il y a des journalistes qui ont envie de faire du... Est-ce qu'il y a en Afrique des journalistes qui ont envie de faire du bon journalisme ? Alors là, aucun doute. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent faire ce que vous avez appelé à l'instant du journalisme de qualité ? La réponse est franchement pas souvent.
Parce que, je vous contredirai, moi je pense que la formation est dangereuse. Politiquement, la bonne formation de journaliste, et puis le journalisme de qualité est dangereux pour les pouvoirs en place, non ?
Alors que le journalisme de qualité puisse être dangereux, oui, je serais plus nuancé que vous sur les pouvoirs en place. Je vais y revenir. Que la formation soit dangereuse, non. La formation en tant que telle, elle ne mange pas de pain. Non. Vous pouvez toujours faire de la formation, c'est pas dangereux. Et pour revenir sur votre question de base, formation des journalistes ou formation de management, nous avons l'expérience que former un journaliste à partir de peu de choses, je dirais de peu de choses, vous disiez déjà écrire, ce n'est pas évident, etc. Oui, à partir de peu de choses, former un journaliste qui a envie de faire du bon boulot, c'est exactement comme en Suisse, ça va vous prendre 2, 3 ans, 4 ans, mais voilà, en 2, 3, 4 ans, s'il en a envie, s'il a envie de faire du bon journalisme, vous aurez quelqu'un qui est de grande qualité, qui saura faire son travail. Le problème n'est pas véritablement là. Je ne le minimise pas, mais je dis que tout est là pour réussir. Les gens sont là, ils en ont envie. Les techniques sont là, on sait faire. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème va être effectivement dans le management. C'est-à-dire que vous allez avoir une radio, je prends l'exemple d'une radio, mais on pourrait prendre une télévision, un journal, peu importe. Le management du dit organe de presse va comporter toute une série d'éléments. Il va comporter des éléments financiers, donc de gestion financière, donc de modèle financier. Là, vous avez un premier problème majeur. Quel est le modèle financier qui, dans un média, alors dans les zones de crise où nous travaillons, mais aussi ailleurs en Afrique, dans des zones de transition ou dans des zones plus stables, quel est le modèle de média qui va vous permettre effectivement d'avoir un modèle d'affaires qui fait que votre truc fonctionne économiquement ? C'est un premier problème majeur, il faut pouvoir y répondre, et il va évidemment déterminer, exactement comme en Suisse ou comme en France, ce que sera votre rédaction derrière. Le modèle d'affaires va déterminer ce que vous allez faire dans votre affaire. Et là, il y a un premier problème absolument fondamental. Il y a des endroits où il n'y a tout simplement pas de modèle d'affaires qui fonctionne localement. Première chose à tenir. Deuxième chose, il n'y a pas que le modèle d'affaires. Il y a les ressources humaines. Il faut gérer les ressources humaines. il faut gérer le matériel, il y a de l'informatique aujourd'hui dans la plupart des médias, il faut des informaticiens. Les médias, ce n'est pas un métier, ce sont au minimum 10 métiers. Donc tous ces métiers, le journaliste, désolé pour moi qui suis journaliste et pour vous qui l'êtes aussi, le journaliste c'est le plus simple. Ce sont les autres métiers où il va y avoir des véritables complications. Et c'est là que vous allez entrer dans des situations où pour former le management d'un média, les 2, 3, 4 ans dont je parlais pour les journalistes ne vont pas suffire. Là, vous allez entrer dans des durées, vous insistez sur la durée, vous allez entrer dans des durées qui sont de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et des modifications extrêmement profondes. Et l'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez investisseur ou que vous soyez donateur, vous ne réfléchissez jamais sur des durées de ce type. Jamais. Là, il y a un véritable blocage. Mais le problème, il est dans ces éléments-là, dans les éléments de formation du management. Je reviens encore sur les journalistes avec une donnée fondamentale. Je disais qu'en 2, 3, 4 ans, vous formez les journalistes. Si vous voulez, je vous donnerai des exemples qui sont extrêmement probants. Par exemple, aujourd'hui, en Guinée-Conakry, où nous avons un centre de formation avec des gens qui sont tous jeunes et brillants. Mais l'un des problèmes n'est pas le savoir-faire technique du journaliste. L'un des problèmes essentiels est sa possibilité, dans le milieu culturel où il est, d'appliquer la déontologie qu'on lui propose. Et là, il y a un blocage fondamental. Parce que dans le milieu où il est, les codes déontologiques que vous lui proposez et auxquels il adhère, fondamentalement, il va y adhérer. Mais appliquer ces codes déontologiques dans un univers où, économiquement, il est totalement minoritaire, où sa position sociale va faire qu'il est connu. Il travaille dans un média qui a du succès. Il est connu. Cette position sociale va lui donner la possibilité de faire beaucoup de pognon ailleurs. Alors peut-être pas exactement suivant les règles déontologiques qu'on lui propose. Mais le choix, il est terrible pour le journaliste en question. Il doit choisir entre appliquer des règles déontologiques dans un endroit ou dans un média qui est connu, qui est bien, qui lui donne une certaine... Mais où il ne va pas se développer personnellement, financièrement, ou bien aller ailleurs et utiliser les possibilités que lui donne sa notoriété acquise et sa connaissance. Ben, c'est déjà un choix personnel qui est énorme.
Mmh. Est-ce que...
Si vous permettez, s'il vous plaît, je veux juste réagir sur la question que vous avez posée il y a un moment sur les différences de besoins en termes de formation. Parce que du point de vue de Code for Africa, on a des réactions parfois intéressantes, puisque nous, on forme beaucoup de journalistes ou on intervient auprès de médias sur des questions du numérique, donc qui suppose d'avoir une infrastructure d'accès à Internet, une infrastructure mobile, déjà des prérequis en termes de connaissance de l'écosystème du numérique. Et donc souvent, c'est pas aussi souvent que ça, heureusement, mais on nous dit, mais attendez, vous allez former des gens au numérique en Afrique, mais il n'y a pas Internet, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, c'est quelque chose, une réaction qu'on rencontre souvent et qui est totalement surprenante et fausse, puisque lorsque l'on mène des formations sur le journalisme ou les médias numériques auprès de journalistes, dans le monde entier, on peut se retrouver dans n'importe quel pays face à des journalistes qui n'ont absolument aucune idée de ce dont il s'agit, que ce soit en France, en Suisse, aux États-Unis. Et évidemment, c'est la même chose en Afrique, avec toute la diversité qu'on vient d'évoquer sur les pays africains et leurs médias. Mais les besoins en formation numérique sont présents en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et également en Afrique. On a évidemment des médias qui ont pu mettre en place des processus de transition numérique assez élaborés, mais dans tous les pays, on a aussi des médias qui n'ont pas du tout même entamé ce processus de transition numérique. Et on a des expériences assez intéressantes avec Code for Africa, puisqu'on mène parfois des formations au numérique dans des pays dits développés. Donc on a des équipes de Code for Africa qui vont montrer comment utiliser Twitter, les réseaux sociaux, le journalisme de données à des journalistes européens. Donc, quand on parle des différences en besoins de formation, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a des besoins de formation et différents types de niveaux d'éducation qui sont très différents et qu'on retrouve un peu partout. Et quand on effectue des formations au numérique, au journalisme numérique, en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, on a toujours en face de nous, on trouve les 30 personnes qui sont intéressées, qui veulent le faire, qui ont déjà les prérequis pour faire du développement technologique, pour faire de la visualisation de données. Ce sont des choses qu'on trouve et qu'on expérimente tous les jours. Et de ce point de vue-là, il est très important de ne pas forcément aller vers l'adaptation du niveau de la formation. C'est-à-dire qu'on fait de formation au journalisme de données qui sont au niveau les plus hauts possibles des standards mondiaux pour des journalistes africains. Et il n'y a aucun problème. Ils vont faire ensuite des applications de qualité avec les données de qualité. Après, on a toujours le problème de l'accès aux données dans les pays... certains pays africains qui ne vont pas faciliter l'accès aux données. Donc c'est plus difficile de trouver la matière première. Mais au niveau des besoins des journalistes qui sont motivés et intéressés, là je rejoins ce que vous disiez sur pratiquer un journalisme de qualité éthique. On a des gens qui sont formés, qui ont la volonté de le faire de partout. Donc ça, de notre point de vue, c'est très important de souligner ça.
Est-ce que il vaut mieux aller faire de la formation sur place, subventionner des formations, ou est-ce que c'est mieux de faire venir, par exemple, des étudiants ici, en Angleterre, en France, au Portugal, et les former ici, selon nos standards, pour qu'eux puissent après implémenter leur ce qu'ils ont appris, et peut-être faire... devenir eux-mêmes professeurs. Il y a dans la salle un représentant du Ghana qui est dans une université à Dortmund, oui, lui, qui est un exemple d'un étudiant, enfin d'un praticien, vous êtes déjà dans les médias, et qui suit des études à Dortmund et puis qui va revenir dans son pays avec naturellement un level d'éducation très haut. Qu'est-ce qui est mieux ? Il vaut mieux aller sur le terrain ou peut-être créer plus de bourses pour faire venir ces gens ici. You understand? Yes.
Well, I think you need different levels of training for different things. If you're dealing with people that are currently working in the media, you have greater impact doing it locally because you can serve more of them more rapidly, and they can learn from each other, and they understand the conditions very quickly. As you go to the need for more lengthy and advanced training, sometimes it's better to take people out because you may need access to trainers that you can't have locally. And when you're dealing then at a higher level, sometimes you do have to take people out for several years to get them. So I think you have to think of training and education as the whole spectrum. And what you have to decide when you're developing a program is, who are we actually trying to influence with this? How are we going to influence the most in the best way by doing this? And if it takes long-term one-on-one training, maybe taking out is a better way. But if it's shorter-term training where you want to reach a lot of people, always local is a better way to do that.
Mm-hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je crois que le il faut mettre la formation en relation avec l'emploi, quelque part. Former des gens pour des capacités qu'ils ne vont pas pouvoir mettre en pratique ne sert à rien, sauf à créer des frustrations. Moi, je pense qu'en Suisse, nous avons un système de base qui est excellent, c'est-à-dire que on est formé au journalisme à partir du moment où on a un emploi, et c'est à l'intérieur de cet emploi que l'on apprend le journalisme, avec de surcroît des cours à côté, évidemment, qui complètent la formation que vous avez dans votre média. C'est un peu de l'apprentissage, c'est un peu du compagnonnage, c'est le système. Moi, je pense que c'est un excellent système. C'est effectivement. Et puis, si vous voulez, moi j'ai vécu, alors, au titre de la Fondation Hirondelle, et vous avez peut-être vécu la même chose, des situations où nous avons fait, par exemple, à l'agence de presse que nous avions auprès du tribunal pénal à Arusha, tribunal pénal pour le Rwanda, nous avions une agence de presse, et parallèlement à l'agence de presse, nous donnions des cours de chronique judiciaire. Et nous donnions ces cours à des gens qui travaillaient dans des journaux africains, dans toute une série de journaux africains. Fort bien. Les gens venaient et ils étaient absolument... Ils adoraient ces cours. Ils adoraient ces cours, d'autant plus que la personne qui les donnait au début, Philippe Dinden, était lui-même chroniqueur judiciaire. Donc, il les prenait dans des tribunaux. Il faisait le divorce, il faisait l'héritage, il faisait comme base de ce qui, après, allait devenir la couverture d'un tribunal pénal. Mais ils commençaient vraiment par le début. Les journalistes adoraient ça. Ils retournaient dans leur rédaction derrière, et dans leur rédaction, personne ne voulait de ces chroniques. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qu'ils avaient appris, parce que le rédacteur en chef leur disait « Combien ça me rapporte ?» Ben, ça ne lui rapportait rien. Ou bien, on n'a pas la place pour ça. Donc, ils ne pouvaient pas le mettre en œuvre.
Et ça, c'est le dilemme qu'on a dans le monde entier. Non ?
Oui, mais alors, sur beaucoup de formations qui sont faites, que ce soit en Afrique du Nord, en Tunisie, par exemple, j'ai revu ça récemment, que ce soit, ce sont des formations qui donnent un goût de quelque chose qui serait possible. Voilà. Mais dans votre média, vous ne pouvez pas le faire. Il faut toujours faire attention à ce lien entre la possibilité de mettre en application ce que vous apprenez et effectivement ce que vous apprenez. Ouais. Cela dit, par rapport à votre question, évidemment, il y a une poussée à partir du moment où des journalistes comme monsieur voient autre chose, sont sensibilisés à autre chose, pour autant qu'ils rentrent dans leur pays, ce qui n'est pas toujours le cas, mais pour autant qu'ils rentrent dans leur pays, effectivement, ils exercent une poussée vers le haut qui est indispensable.
Yes. OK, Paolo, wanted to say.
I agree. So
take the microphone.
I agree. I think, of course, all African countries need media management, but in fact, there are strong different levels in each country. For example, I think, and we need to understand what kind approach of management we are talking about. In some countries, maybe they need more organization. In other countries, maybe they need more strategic and market approach. For example, how do you teach market approach and management and strategic management in countries where there are no market? For example, there are in Portuguese-speaking, African-speaking countries, there are three countries that they are totally dependent of the subsidies from the state. There are no market. I remember when I did the diligence in Guinea-Bissau and in Mozambique too, but in other projects some years ago, we made interviews to understand the market, and two advertiser persons said, we can't advertise very much because if we advertise in the newspaper, the government will obligate us to pay more tax. So, in some countries, there are a little market, but the advertisers, they don't want to do it because they're afraid that the government will pick up the money and apply tax. So, I think we need to create media management programs. It is possible. We need to understand the political context. I think we can divide three or four kinds of countries in Africa: democracy with less resources, or autocracy with good resources, like Angola is an autocracy, is not a real democracy, but they have good resources, they have market, they have petroleum, they have diamonds, or poor democratic with good resources, poor democratic countries with good resources. Or bad democracy with poor resource. That is a case of Guinea-Bissau. They are poor. They don't have a democracy. is a state failure. It's difficult to, there are other African countries like India. It's very difficult to create the programs there. So, but it is possible. Start to the base, to learn the people, to writing, organize the company, the administrative part. So it's possible. But we can't teach there. Think about strategies. Think about the market. In the first phase, we can't teach it because there are no market. Okay.
Are there questions? Yes. I have a question to you. Do you go back to Ghana after your studies? That's a question of Mr. Etter.
Of course, I will go back to Ghana. I was practicing journalism in Ghana before coming here. The first thing I want to say is this, that there's a huge diversity on the continent of Africa, which you guys should constantly remind yourself of.
Yeah.
The fact that in Ghana, where I come from, I practiced as journalist for 7 years, and straight away I worked at the BBC World Service without any training. I got a small contract of 6 months and worked at the BBC World Service without any training. There are huge presenters on the African continent who work for even the World Service News. The thing about other countries that are struggling, emerging countries and transformation countries, is that this culture is not there. And it has to be started from where people started from. The word formation or training is something that is not needed in some countries, because we started journalism education as far back as 1957 in Ghana. We don't need training. Let me tell you about the model that the BBC applies. The BBC has affiliates in Ghana, and to be sure that the BBC is number one around the world, the affiliates of BBC must be number one in every city where they're located. And the way to do this is to employ local experts, foreign expert, and do what we call man-to-man coaching, and to do market research assessment that both partners are involving. Expert from other places and local players come together to form these market research, so that we have moved from training in some countries to coaching. Mm-hmm. And this need to be clarified, because the second issue I want to mention is this, that the needs of the African journalist, we can, through market research, identify them. Although that these are the needs of the population, these are the needs of the journalist. But the way to fulfill these needs will be completely different. And the problem I have usually with foreign donors is that we all agree that these are the needs, but the way to meet the needs, it's the European style of meeting the needs. And that fails flat usually, especially, let me give you a very good example in Ghana. English-speaking journalism, or British or European style of journalism, is not succeeding in broadcast media. There is something called local language broadcasting, and that is the one that a lot of people are moving to. In Ghana, the highest listening radio station has about 10 million audience, and it's a local language broadcaster. And this local language broadcaster ran a broadcasting system that is completely opposite to the European style of broadcasting, which is they are very elaborate in the way they describe things. They use more adjective in news. They are flowery in their language. In the way these are completely telling a story to a group of people that is completely different from another group of people. And these, we need to agree with these expert interviews how to modernize or come up with a model that actually is able to deliver the needs we both see, than to carry models in our minds. I know that all of us are prone to this, because you only teach what you know. You don't teach what you don't know. Mm-hmm. You can only transfer what you know. This is realistic. But the point is this, that we need to continuously go into the areas where we understand, because I know that there are needs in local language broadcasting in across Ghana, Nigeria, but that is, how do we make it professional? How do we ensure that this local language broadcasting does not infringe on the rights of people, and that the journalists understand their responsibility, and that the populace are more served using their oral style of storytelling. And these are the things that should occupy us. And as it occupies us in countries that are developing, then we can move towards the ones that we need to give basic training and education to in management. Because I ran a campus-based radio station that was doing well, because we put up a team together that had management capacity. And it is true, if you have money and you don't have management capacity, you cannot run a radio station. It doesn't matter that the UNESCO sponsors a group of people to come and tell you what to do. They are not there all the time. The strategies change on a daily basis. I studied management for my undergraduate degree and master's in management, but it has nothing to do with when I was running the radio station. I got to change the style every day when Twitter came, when Facebook came. It has to change, and it has to be, it is rapidly moving, and it has nothing to do with classical management. It has everything to do with thinking about competitive edge in the market and how to make it happen. And this is the thing that most of the people lack. And we need to model this in our approach. Thank you very much.
Do you want to answer? You know, yes. Thank you very much. Very inspiring.
Very inspiring. But I would say that actually what you're talking about how to adjust to change, about how to innovate, about how to change every day, that takes strategic thinking. And that requires managerial thinking. Management isn't giving you the answer to every problem you encounter. Management and good strategic thinking is giving you ways to think about it so that you can figure out what you need to be doing. And so a lot of the management is not just technique, but about mindset.
Do you want to react to what he said, Paolo?
I remember now to share with you the different perspective about the cooperation from US head to Africa and the European Union. This is a proposal at Media Management. I had the opportunity to participate in one project in the initial phase, in the project sponsored by US head to Mozambique. I collaborate in the proposal, initial proposal. They invite me to manage the project there, but they obligated to live 2 years in Mozambique. It was impossible for me to do it. And I also invited two other projects sponsored by European Union to Timor East. I rejected also because they obligated me to go to Timor East, live 2 years. So, but this experience is to share with you a different approach. The program from the US head, they focus on media management in the training. The European Union project, the in general objectives were the same, but the European Union program they forgot completely media management. I suggested to include media management. And they said, the leaders of the project and the program, the leader of the program, our preoccupation is not the market, is not the media management, is the political system, political independence. So I think in Europe, we need to collaborate more with the European institutions and to try to sensibilize, to put media management in the development intervention in Africa in the project. So it's interesting exercise. You go to the internet to see the different of the programs from US head and European Union. So one focus market, other focus on political issues.
Monsieur Ether?
Yes, I just wanted to add, I was very interested by what you said, just to add that we always broadcast in the national languages and that all our teams are nationals. We have no foreign journalists speaking or anybody, no foreign at the mic and even in our media. And of course, the languages, since we want to address as many people as possible. Of course, we speak in the national languages. Even in Liberia, as you may know, there are 18 main languages, and we tried to broadcast in the 18 languages. It is really something that, that is, of course, completely central. May I ask you a question? Now you are studying journalism in Dortmund, if I understood well. And when you arrived in Dortmund, you had already a practice of journalism, but you didn't really study it before. Is it interesting for you to be in the university, to see, to be in this environment, and what are you going to bring back from this environment?
Okay, I think that the first thing is that I had studied journalism. I'm studying a PhD, my PhD in international journalism, but I had done a master in Ghana. And I have practiced journalism for almost 5 years. Before coming to Ghana, I was still practicing. The question actually is this, that what I see in Dortmund, which is one of the biggest journalism training institutions in Germany, is that student education and bachelor education and master education is filled with a lot of practice. This is something that when I go back to Ghana, I'm likely to ensure that universities put credit on practice, because this is lacking in our journalism education in Africa, that there's no integrated approach to earn credit through practice, and that much of the journalism education in Africa is theoretical, and this is mostly, and lacks management abilities as well. These are things that students are managing wholly radio stations across Germany and across the UK, which is not the case in our country. And this change, when these changes begin to take place at universities, then it will trickle down into the industry, that you go there as an expert and you would find at least one or two people with which you can start this training who can hold on when you have left. Because this is the problem we have had, that there have been very brilliant training during the project period. But after the project period, things have gone very bad. And we should also remember, the reason why we cannot forget media management in all of this is that one of the reasons why I would not go back as a journalist to Ghana is that if you work for small media organizations and you train people to become top presenters, they get poached by the big media organization. So you are perpetually in the business of training and managing staff to become aware of this job of journalism and to manage it. But just when they get better, then the conglomerates around the country take them away from you. So it's what it means is that we need the educational system.
It's same thing in
our
country.
So we need more training.
Training is also in the small companies. Yes. Okay. Okay. Are there other questions here, perhaps? Please.
Let me start by saying that I appreciate, what this conference has been doing since yesterday. But then I think that we need to be very careful about certain generalizations that we are making here. From what I've listened to from the panel, and even from my brother who just spoke now, a lot of generalization that we need to be very careful about. And I guess one of the reasons is that this panel, to me, is not complete. We are talking about African media development. There's no African in the panel. We are the people in Africa. I practice journalism in Africa, and I'm teaching journalism. I've taught journalism in Nigeria, and I currently teach it in South Africa. And here we are now, I'm listening to a number of things that I think are not quite right. Journalism education in Nigeria is a very vibrant thing, just like the practice itself. There's hardly a university in Nigeria that does not have a journalism program, mass communication program, even polytechnic. And I thought, in these two different educational sectors, I taught mass communication journalism at the polytechnic and the university. And I know that the curricula in both the polytechnic and Nigeria, they are fantastic. They may not have all the equipment, particularly in this age of digital media. They may not have all the equipment, but the curricula are fantastic. And media management is a core module. It's a core module, whether at the polytechnic or university level. It's a core module because the National University Commission of Nigeria stipulates that that must be taught. It is not a matter of option for any university or polytechnic in Nigeria. I taught it at the polytechnic level. So, and I do know that in South Africa, even though not all the universities in South Africa, you know, will have media management as in their curriculum, okay? Because in South Africa, there's a lot of flexibility, unlike in Nigeria, whereby the National University Commission stipulates or prescribes, you know, to every university what must be taught. In South Africa, there's a lot of creativity in that. And therefore, you know, you may find certain modules in some universities you don't find in some others and all that. But I do know that some universities, you know, yet teach media management. And a particular university, Rhodes University in Grahamstown, actually has an institute for media management. That's Soplaki. Soplaki Institute for Media Management. So, and that's why I said, you know, we need to be very careful about certain assertions that we make. And I, apart from Nigeria and South Africa, which I know very well because I've worked in those two countries, I know Zambia also have quality mass communication, journalism, education, and we can even mention some other countries. I'm not disputing that we have countries, you know, where journalism education is not that strong. Another example is Uganda. Uganda also has a very strong journalism education because I'm also familiar. You know, I have colleagues, you know, who work there. When I was there last year, you know, I was in at least in two of their universities. I was at Makerere and I was at Uganda Christian University. And I know what they are doing there. So I admit the fact that there could be some countries where things are not, you know, for instance, I'm not really too familiar with the Portuguese-speaking African countries, you know, that Paulo worked on, because I don't speak Portuguese, and therefore that may be a problem for me to know what is happening there. But sincerely speaking, a number of African countries are really doing well as far as journalism, mass communication, education is concerned. Thank you.
Yes, I'm sorry you are not on the panel. Yes, but it's very important that you spoke here. I've got a question for you. How about journalistic ethics in your lessons? Is in your two universities, do you teach journalistic ethics such as search of truth, independence, checking news, and so on?
Yeah.
Yes.
Yeah. I think my voice is loud. For translation, okay. As far as I know, in Nigeria, as I said earlier on, I will also talk about South Africa. In Nigeria, all the programs, you know, journalism, mass communication programs, have media ethics.
Yeah.
You know, actually, you know, they teach it together with law. It is called media law and ethics. And as I said yesterday, now, there have been discussions about how to separate the two so that proper attention can be given to each part. You know, media law separate, media ethics separate. That, you know, had been a discussion with UNESCO. You know, you will recall that sometimes in 2007, you know, UNESCO did some work on journalism education in Africa when they were trying to look for the centers of excellence and centers of preference, okay? I participated, you know, very well, you know, in that exercise, and they were able to identify 12 universities as centers of excellence and about 8 others as centers of preference. Okay, so around that time, you know, there were also issues about the curriculum for journalism training in Africa, and that kind of issue also cropped up about separating law from ethics. So the fact of the matter is that as we speak, ethics is taught very well. I may not know too much about other countries, but I know that in Nigeria, ethics is taught very well. And in my university in South Africa, my current university in South Africa, which is the Northwest University, we teach ethics, media law and ethics. Mm-hmm. Okay?
Okay.
We teach it as a whole module, and we teach it as part of some other modules.
Okay.
Because even this semester, I taught it to first-year students when I was teaching them introduction to journalism. I taught it, you know, briefly. But at their third level, we have it there. as a whole module, media law and ethics.
Okay, thank you. Are there comments here? Yes, and then other questions, briefly.
Yes, very briefly, just to stretch that I said that we are working in crisis zones, and I insisted on the differences between the different parts of Africa. Of course, it's quite obvious, and what I said is related with the places where I work. But connected with what you said, I would also have a remark and maybe a question for you. I see very little solidarity between those different levels of journalistic ability in Africa. This time I'm in the continent. For instance, when we worked in Sierra Leone some years ago, after the war and after these terrible events, we worked with the university and with the Faculty of Communication, which is quite good, of course. And they had a university radio, and we tried with them to build out of this university radio a national radio, which would have been, of course, institutionally fantastic, because there was a place on which to build. And in the we could be there and work with them for some years, but I never saw any regional interest between the different African journalists for such an initiative. And wherever I work, I see the national journalists. Again, I'm working in the crisis zones and not in countries like yours. But I don't see this solidarity between the African journalists, where they could, in my opinion, maybe, it's a question to ask you, maybe they could help each other. Help each other.
Yes.
I mean, there could be a solidarity.
Yes. And but time is running out. We have got two questions. One here first, and then the lady there. But did you want to answer briefly, very briefly? No. So, okay, it's a question. Because, very briefly.
You know, it's something that we need to believe ourselves about. You know, what he said, you know, is a very good thing, that there should be cross-fertilization of ideas, you know, among African journalists and all that. Yeah, that, you know, is actually something that is important that we need to do in Africa. But because we have realized now that there are different levels of strength, you know, in Africa. Some countries are actually up there, doing well as far as journalism, education, and practice is concerned. Whereas, you know, some others are just still trying to come up. Yeah. So it is definitely not out of place, you know, for countries that are stronger to assist countries that are not that strong, you know, in training and even, you know, in practice.
Okay.
But I do know that there's a African Editors Forum, okay, which is a body that brings all African journalists together. There are national bodies of journalists. Like in Nigeria, they have a Nigerian Union of Journalists. In South Africa, they have a South African National Editors Forum and all that. But there is the African Editors Forum, okay, which I believe, you know, can take up the kind of thing you are talking about, because that is a platform that brings, you know, the editors, the journalists, you know, across the continent together.
Okay. Please.
Yes. I will not focus my contribution mainly on journalism, but on the challenges of education on media. So I'm looking at the biggest spectrum of multimedia. One of the challenges is how technology evolves, which then impedes the quality of education that one has started. So for example, if you start teaching on a particular technology by which we will use to broadcast, the next 2 weeks you see something else comes out. Now, you don't know whether to go back and change the curriculum and put in that technology. And broadcasters are also migrating into new quality of technology. So it's a general challenge. I don't think that, so far as education is concerned, technology and infrastructures always impedes their presence upon our educational systems. That's number one. Number two is the quality of training programs that actually is delivered. Because you've started a particular curriculum, you are compelled to finish that curriculum. When you finish that curriculum, it then goes back into the industrial sectors that we have in that environment, whether they will be able to consume those who've just graduated out of. So it's an educational challenge where you begin to train people and then they come out. You know, I'm not just talking of teaching people, but training people, where coaching is also a prerequisite in training. They come out and they have nowhere to even have their national service. And they have to sit at home for a year, hoping a company will spring out to consume them. Now, so an environment is very critical, whereby the kind of industries that we propel to be at the forefront of a country also affects an education like a media education. In my country, you see that you have the telecoms doing very well. Then after the telecoms, now oil is booming, so the oil companies now are doing very well. When the oil company came, then the media institution have to change their curriculum to say we are an oil training centers. All right, so the industries that come into a country really pushes the educational strands and trends in a particular environment. All right, and there's all this bed rest on technology. Okay, so the challenges of media, one is technology, it's also two, where the industry is moving and where everyone is being educated on our electronic print media and social media. This is where you will get the money power. All right, now, if I have to go and learn journalism and I know I'll be paid $300 and I have to be just service an oil plant and I'll be paid $2,000. Sometimes I will weigh that against my passion because I have to live and I have family. So it becomes a challenge on an education where people begin to retract out of that particular education they've started and then they embark on a different kind of a course. All right. And so it's also a challenge so far as media education is concerned. We have a lot of things fighting media education, especially in Africa, all right, because of what is being projected as is the best, is the right way to go, is the right way not to go. Talking a little bit about journalism, in Ghana, there are certain things you can say, there are certain things you cannot say, and I don't know if it's the same in this country, all right, where when you say it, they call you to court, and they probe you, and they ask you, why did you say it? Where did you get your facts from? All right, let's go through this, which also puts a lot of people in a kind of, apart from the bold standing out, I don't care what you will do, I will still say it. All right. It's a community. It's a family community. And sometimes you have a lot of strings coming to you and say, why do you need to go through all this? You don't need to go through all this, you know. So we have a different kind of culture that absorbs our educational challenges. And traditional belief is also a strong system in our education. All right. It's something that We don't play with our cultural values. We don't do that. And so we take it wherever. Talking about ethics in media, it's a strong thing in Ghana that we know that you have to be transparent. We know that you have to be truthful because it's embedded in our culture. All right, and it's easy to teach it in media. How will I come on a broadcast level and say things that are not true whilst I live with it every day? Okay. It's also a challenge with a media education when you have a particular technology that is so effective and efficient for broadcasting. And because we are not privy to it, we can't teach it in our curriculum. But that is what will do the job. I just flew in from Ghana, and we were broadcasting from one region all the way to the parliament. And they had to rely on the telecoms. But unfortunately, we had a power cut out. And so The broadcast did not move from one point to the desired point, but the satellite configuration and turnaround solutions was intact. And because the journalist doesn't know anything about satellite broadcast, he can't do anything till they put back the technology he's used to. All right, these are challenges I think that we have to address, which is worldwide, depending on where technology has gotten to and where it has not gotten to, and the broadcaster who is receiving from one end, what kind of technological system they have. In the area of competence of knowledge, I believe they teach very well and they absorb good knowledge. But then there is another challenge of where apprenticeship is done and also how we transport information from one end to the other, all right? Before it gets there, then the public consumes it. So we have these challenges in the area of technology. We have challenges in the area of transport of information. We have challenges in the area of timing of information. That makes a very good lively news dead, because by the time the journalists get the news there, my auntie knows it already from uncle. You see what I mean? It's a big family culture. That's what it is. So I think that if we look at the challenges well and be able to attack the challenges the best way we can, it will help. Rather than sometimes I get lost in the loop where everything is going.
Okay, so, thank you. Thank you very much. Very interesting, but a little bit long. So sorry. But we had another statement. So please, and then I think Robert wanted to intervene on your statement, but it was very, very interesting. Do you want shortly intervene shortly, and then we go to the lady?
The issue of technology is and training in technology is always a problem, because it works two ways. Sometimes the training institutions, the educational institutions, the technology is very old. When they go out, it's not right. On the other hand, there's sometimes when it's so advanced that they go out into the working environment and they don't know how to use what's there. And this becomes important to teach functionality rather than teach specific technology. So that once you can work on different kinds of technologies when you get there. But technological education works both ways, and it's not dependent on whether you're in a developing country or a developed country. You have the problem in both places.
Okay, please, your statement.
I have a question, actually, for Mr. Etea with Fondation Hirondelle. I'm Valerie Cooper with Hong Kong Baptist University. I was curious when you said that you consider your foundation to be creators of independent media. In particular, how much control does the foundation have on day-to-day management of your radio stations? And is it ever a conflict of interest to have independent media that's nonetheless funded by a foreign entity?
Okay. On the first question, It is extremely difficult, I said it, to achieve this goal. And it is extremely difficult mainly for economical and financial reasons in the countries where we work. It may also be difficult because we have been working a lot with the United Nations, managing on the editorial point of view, on the editorial side, their radios, and when they leave, what are they going to do with their radios? We try to find a common solution, but until now we couldn't. So it is extremely difficult. We have one example in Central African Republic, in Bangui, where the radio has been existing for 15 years, and we still are very much in the radio. It is depending on the local foundation, Fondation de Keluka, but we still today could not achieve a real independent local radio, mainly for economical reasons, not only, but mainly. So it is a goal, and it is a very difficult goal to achieve. Also, of course, for political reasons, economical and political. But I think that it is a very important goal, and that we have to try. Of course, it's not Fondation Hirondelle who can achieve it. It is only the local journalists and the local entrepreneurs who at some point take over and achieve the same goal. Fondation Hirondelle will never by itself achieve such a goal. The second thing, relations between the donors and independent media. Donors never, the international donors, whoever they are, mainly state donors, they never make pressures on what we say and our editorial goal. And they don't. They have a much easier way to push us or not to push us. It is just not to fund us.
Mm-hmm. Are you satisfied? Is there? There are more questions. Who want? Yes. Please. This is the last question. Huh? Yeah.
Bonjour à tous, je suis étudiant donc à l'Université de Neuchâtel et j'avais une simple question. Depuis ce matin, on entend les intervenants, mais il y a juste quelque chose qui me gêne, c'est que dans les intervenants, il n'y a aucune personne qui vient d'Afrique, c'est-à-dire que ce soit un businessman ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir pourquoi, parce que ça donne une image un peu paternaliste, c'est-à-dire comme s'ils n'étaient pas capables de faire par eux-mêmes. Donc j'aimerais savoir pourquoi.
Alors... Je donne cette question à Cinzia, qui a.
Merci pour cette question. Alors, d'abord, c'était pas facile de trouver des intervenants. Et deuxièmement, j'ai invité. Et je savais qu'il y avait beaucoup d'Africains qui venaient pour le workshop qu'on a eu hier. Et donc, je me suis dit, en tout cas, on les a dans la salle. Et je suis très contente qu'ils sont en train de contribuer de manière très enthousiaste et très intéressante. Et donc, j'espère qu'ils ne sont pas gênés du fait qu'ils ne sont pas vraiment assis là dans le panel, mais je suis très très reconnaissant qu'ils ont fait le voyage et qu'ils sont venus ici et qu'ils ont enrichi cette conférence de cette manière. Donc merci beaucoup. Et maintenant on va manger.
Voilà, merci.